C'est une opinion aussi fausse dans le domaine de la politique que dans le domaine de la science que de s'imaginer que l'on peut fonder un grand parti sur le principe de la résistance à tout changement. Le changement est inévitable, mais il s'agit de savoir si ce changement sera réalisé en harmonie avec les mœurs, les coutumes, les lois, les traditions du peuple, ou bien s'il sera comme une conséquence de principes abstraits et de doctrines arbitraires. Dans le premier cas, c'est un système national, dans le second, c'est un système philosophique. Extrait d'un discours de Benjamin Disraeli, Premier ministre, devant la Chambre des communes en 1874.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Lors de notre précédente chronique, nous avions vu comment, au XVIIIe siècle et jusqu'à la défaite de Napoléon, la Grande-Bretagne avait pu mener une grande politique au niveau mondial et avait connu une ère de prépondérance. Cette prépondérance va s'affirmer au XIXe siècle dans ce que l'on a appelé l'ère victorienne. C'est effectivement la reine Victoria, devenue souveraine en 1837, qui a donné son nom à une période qui d'ailleurs peut commencer avant elle et se terminer quelques années après elle. Effectivement, le XIXe siècle est un siècle de puissance pour la Grande-Bretagne. D'abord, son système politique, qui s'était mis progressivement en place à partir de la glorieuse révolution de 1688, connaît véritablement là une stabilisation tout au long du XIXe siècle. Le système se démocratise par une série de réformes électorales et il se parlementarise très clairement, puisque désormais le cœur du pouvoir se trouve au Parlement et dans la personne du Premier ministre, le souverain ou la souveraine étant le symbole de l'histoire, de l'unité, de la tradition nationale. Sur le plan de réforme électorale, effectivement, il y a des lois importantes au cours du XIXe siècle. Première loi, 1832. On ouvre un peu plus qu'auparavant le corps électoral. Il passe d'environ 250 000 à 500 000 personnes. Mais cela reste tout de même extrêmement censitaire. Suit la loi de 1867, qui ouvre aux classes moyennes le droit de vote. On atteint désormais un corps électoral masculin de 3 millions de personnes. Et puis la loi de 1884-1885, qui couvre désormais un corps électoral de 5 millions de personnes, où les classes populaires commencent à être intégrées au système politique. Il y a d'ailleurs un élément à remarquer, c'est que cette loi ne prévoit pas de droit de vote pour les personnes qui vivent encore sous un toit dont ils ne sont ni propriétaires ni locataires. Ainsi, le fils d'un lord qui vivrait au château familial n'aurait pas le droit de vote, tout comme un ouvrier qui vivrait dans une maison prêtée par son patron. La question des femmes, évidemment, se pose dès la fin du XIXe siècle. Il y a des revendications en Grande-Bretagne pour que les femmes puissent accéder au vote. Finalement, c'est seulement après la Première Guerre mondiale qu'il y aura une évolution dans ce domaine de politique. En effet, c'est une loi qui, en 1918, permettra aux femmes de plus de 30 ans de voter. Et enfin, il y aura une dernière loi en 1928, après 10 ans d'expérimentation, où ce sont toutes les jeunes femmes, après 21 ans, qui pourront voter. Donc, il y a un pragmatisme britannique de ce point de vue-là. Ce n'est pas comme en France, où en 1848, on ouvre complètement le suffrage universel à tous les hommes, quitte à attendre un siècle pour le donner aux femmes. Il y a donc une évolution progressive, une expérimentation politique qui fait sans doute, comme l'expliquait d'ailleurs Disraeli dans l'extrait de discours que je citais tout à l'heure, une expérience, un pragmatisme britannique. Ce qui est aussi notable à ce moment-là, c'est qu'il y a une alternance régulière entre les deux grandes forces politiques anglaises, à savoir le parti libéral et le parti conservateur. Ceux-ci sont dominés par quelques grandes figures. Je pense par exemple à Palmerston, grand leader libéral qui a été élu en 1807 comme député, qui est ministre des Affaires étrangères pendant plus de 20 ans, entre 1830 et 1851, et enfin qui est Premier ministre quasiment sans interruption entre 1855 et 1865. Je pense aussi à un autre libéral, Gladstone, qui est Premier ministre entre 1868 et 1874, que l'on retrouve à nouveau au 10 Downing Street en 1880-86, et enfin, alors qu'il est octogénaire, entre 1892 et 1894. Enfin, une personnalité conservatrice, c'est Benjamin Disraeli, Premier ministre pendant 9 mois en 1868 et à nouveau entre 1874 et 1880. Il y a donc un système bipartisan et les élections font alterner libéraux et conservateurs au pouvoir. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une véritable union autour du principe des institutions et personne ne remet en cause la tradition de la monarchie britannique. Et d'ailleurs, on parle du gouvernement de Sa Majesté et également de l'opposition de Sa Majesté, ce qui fait que le souverain ou la souveraine symbolise bien l'union de la Grande-Bretagne. Sur le plan économique, l'ère victorienne est aussi une période où la puissance britannique est à l'œuvre. En 1860, la moitié du fer mondial est produit en Grande-Bretagne, de même que c'est 2/3 du charbon mondial qui est extrait des mines britanniques. Cette puissance est évidemment aidée par une puissance navale qui permet de mener à bien une politique de libre-échange. Et il est vrai qu'après un vrai débat dans les années 1840, les forces politiques britanniques se sont globalement ralliées au principe du libre-échange, d'autant plus facilement que, dominant le commerce international, c'était fort avantageux pour les produits britanniques. Néanmoins, il y a tout de même des difficultés. La première difficulté de l'ère victorienne, c'est régler la question des ouvriers. Effectivement, le travail des ouvriers pose problème parce que des enfants sont employés, les heures ne sont pas véritablement comptées, il n'y a pas de protection sociale. D'où l'apparition dans les années 1850-1860 des premiers trades unions, c'est-à-dire les embryons de syndicats qui visent à protéger les ouvriers. En fait, il faudra véritablement attendre le début du XXe siècle, pour voir à partir de 1906 une série de très grandes lois sociales qui vont protéger par des assurances, par une réglementation du travail, par également la création d'inspecteurs du travail qui vont visiter les usines pour vérifier les conditions exactes du labeur. Et donc véritablement, cet arsenal législatif viendra une vingtaine d'années après l'équivalent dans l'Empire allemand. De ce point de vue-là, Bismarck a été très novateur dans les années 1880, 20 ans à peu près avant la Grande-Bretagne et la France elle-même. D'autre part, cela a une implication politique, parce que la question ouvrière va alimenter un mouvement socialiste, illustré d'abord dans les années 1880 par la Société Fabienne, à laquelle appartient par exemple George Bernard Shaw, et puis ce socialisme britannique va aboutir à un premier parti socialiste, le Parti indépendant du travail, en 1893, et enfin, en 1906, la création du Labour Party, du Parti travailliste, qui aura, aux élections de cette même année, 29 députés. D'autre part, il y a aussi une autre difficulté, c'est la question d'Irlande. L'Irlande a été rattachée officiellement en 1800, mais c'est un un territoire qui, indéniablement, connaît des difficultés parce qu'elle est considérée comme une seconde zone, finalement, de la Grande-Bretagne. Lors de la crise alimentaire de 1846-47, il y a eu une véritable famine et les autorités ne s'en sont préoccupées que très tardivement. Donc il y a véritablement un problème irlandais qui éclate clairement dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e. Problème de possession de la terre, or il y a une loi de 1881 qui permet d'établir les prix sur les fermages. Il y a également des lois de 1885 et de 1903 qui favorisent l'achat de terres par les Irlandais eux-mêmes, ce qui fait que 3% seulement des terres étaient propriété d'Irlandais en 1872, 67% en 1914. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a un problème politique qui n'est pas résolu, c'est celui de l'autonomie, de la home rule, au moment où éclate la Première Guerre mondiale. Et puis, deuxième difficulté, c'est la concurrence internationale. Car à la fin du 19e siècle, deux puissances dépassent la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne en 1895 et puis les États-Unis dès 1889 qui produisent plus que la Grande-Bretagne et le commerce allemand, par exemple, devient indéniablement un concurrent extrêmement important. Ce qui fait que, au début du XXe siècle, quand décède la reine Victoria en 1901, la Grande-Bretagne voit son hégémonie contestée par d'autres puissances. Néanmoins, elle peut toujours continuer à se reposer sur un empire colonial à l'échelle du monde.